Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Artry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'Odyssée du Templier, tome 2, Rédemption est un roman historique d'Henri Strinati, publié dans la continuité d'une saga consacrée aux dernières décennies du Moyen-Âge et à la chute de l'Ordre du Temple. L'action se situe principalement en 1294, dans un Paris médiéval traversé par les rapports de force entre le pouvoir royal, les autorités religieuses, les notables urbains et les réseaux de la pègre. Le récit reprend Barthel, désormais confronté à sa vie familiale, à son rôle d'enquêteur royal et à l'hostilité de son entourage, tout en prolongeant l'itinéraire d'Hugo et de ses compagnons. Le livre mêle ainsi intrigues politiques, enquêtes, tensions intimes et reconstitutions historiques. Son intérêt principal tient à cette combinaison entre romans d'aventure et fresques médiévales documentées, qui cherche moins à résumer l'histoire qu'à la faire sentir à travers les conflits, les institutions et les mentalités de l'époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un Paris de 294 où l'enquête devient un instrument du pouvoir. Le roman place son intrigue dans un Paris médiéval où la justice ne se limite pas à une recherche de vérité abstraite. Le statut d'enquêteur royal attribué à Barthel montre au contraire que l'enquête sert aussi les intérêts du pouvoir central et de ses relais locaux. Cette orientation donne au récit une dimension politique nette. Chaque découverte ne révèle pas seulement un crime, mais aussi une hiérarchie des protections, des compromissions et des luttes d'influence. Le lecteur comprend ainsi que dans ce cadre historique, la vérité circule rarement librement. Elle est filtrée par la cour, les notables, les autorités religieuses et les intérêts économiques. Ce choix narratif renforce l'immersion, car il situe l'enquête dans un monde où les institutions sont aussi des acteurs dramatiques. Le livre tire de cette configuration un suspense spécifique, fondé sur la difficulté à distinguer la mission officielle, la manipulation et la loyauté personnelle. Deuxièmement, la tension entre rédemption personnelle et responsabilité familiale. Le titre du tome annonce un enjeu moral majeur, la rédemption. Dans ce volume, cette idée n'est pas seulement religieuse ou abstraite. Elle prend la forme de choix concrets face au lien du sang, aux dettes du passé et à la volonté de reconstruire une paix intérieure. Barthel revient vers un foyer qui ne l'accueille pas comme un refuge, mais comme un lieu de conflit, notamment à cause de son beau-père et des relations troubles qui entourent la grande boucherie de Paris. En parallèle, Hugo poursuit son propre chemin de douleur, de vengeance et d'apaisement. Le roman met ainsi en scène des personnages qui ne cherchent pas seulement à survivre, mais à se réconcilier avec eux-mêmes sans trahir leurs engagements. Cette dynamique donne de l'épaisseur au récit, car l'action historique s'accompagne d'un questionnement sur la possibilité de réparer une vie abîmée. Le terme de rédemption prend alors un sens narratif précis, il désigne une transformation morale autant qu'un dénouement d'intrigue. Troisièmement, la grande boucherie, la pègre et les coulisses d'une ville médiévale. L'un des apports les plus intéressants du roman est son attention aux espaces sociaux, rarement mis au premier plan dans les récits historiques. La grande boucherie de Paris n'apparaît pas seulement comme un décor, mais comme un point de contact entre activités économiques, pouvoir local et réseaux criminels. L'hostilité du beau-père de Barthes et ses liens avec la pègre donnent au livre une profondeur urbaine. La ville médiévale n'est pas un simple cadre pittoresque. Elle est un système de dépendance où les métiers, les familles et les influences se croisent. Cette approche permet d'élargir l'intrigue au-delà du seul palais ou du seul tribunal. Elle montre comment les zones marchandes, les corporations et les circuits informels participent à la vie politique réelle. Pour le lecteur, cela renforce la crédibilité historique du récit, car les tensions ne viennent pas uniquement de grandes figures, comme Philippe le Bel, mais aussi des structures concrètes de la ville. Le roman restitue ainsi un Moyen-Âge urbain conflictuel, traversé par des intérêts très matériels. Quatrièmement, le dialogue entre Philippe le Bel, l'Inquisition et les notables. Le livre s'inscrit dans une représentation très structurée du pouvoir à la fin du XIIIe siècle. Philippe le Bel y apparaît comme une figure centrale, mais non isolée. Son autorité se déploie à travers des relais, des notables et des institutions religieuses, dont l'inquisiteur constitue un acteur essentiel. Le roman met en évidence la porosité entre pouvoir politique et pouvoir spirituel, ce qui est une caractéristique majeure de cette période. Les personnages naviguent dans un espace où l'accusation, la surveillance et l'ambition peuvent servir des objectifs différents mais convergents. Cette configuration donne au récit sa tension propre, parce qu'aucun camp n'est entièrement transparent. Les décisions royales, les rivalités ecclésiastiques et les intérêts urbains s'entrecroisent sans cesse. En cela, le roman historique ne se contente pas de reconstituer une époque, il propose une lecture de ses mécanismes. Le lecteur est amené à voir comment la domination s'exerce moins par des actes spectaculaires que par des alliances, des pressions et des arbitrages successifs. En dernier lieu, une saga de chevalerie qui relie vengeance, fidélité et continuité narrative. Ce tome 2 ne fonctionne pas comme un récit autonome fermé. mais comme un maillon d'une saga plus large consacrée au chevalier du temple et à son écuyer. Cette continuité est importante, car elle donne du poids aux relations entre les personnages et aux conséquences de leurs actes. Le roman ne cherche pas seulement à multiplier les rebondissements. Il construit une mémoire des blessures, des séparations et des retrouvailles. La présence de Gauvin, la progression du groupe vers une vengeance ultime et les interrogations sur le sort d'Hugo et de Bartel donnent au livre une structure d'épisodes charnières. Le lecteur suit moins une aventure isolée qu'un processus de maturation des héros. Cette logique de saga distingue l'ouvrage de nombreux romans historiques plus indépendants ici. Les enjeux sont accumulés, déplacés et réinterprétés d'un tome à l'autre. Cela crée une attente forte pour la suite, tout en donnant à ce volume une fonction claire, approfondir les personnages, durcir les conflits et déplacer l'histoire vers une forme de résolution morale et politique. En conclusion, l'Odyssée du Templier, tome 2 Rédemption s'adresse d'abord aux lecteurs de romans historiques qui recherchent autre chose qu'une simple reconstitution décorative du Moyen-Âge. Il convient particulièrement à ceux qui apprécient les intrigues bâties sur les rapports entre pouvoir royal, justice, institutions religieuses et vie urbaine. Le livre plaira aussi aux lecteurs sensibles aux sagas, car il s'inscrit dans un ensemble narratif plus vaste où les conséquences des événements se prolongent d'un tome à l'autre. Son principal intérêt réside dans l'articulation entre action, enquête et drame moral. Là où certains romans du genre privilégient uniquement l'aventure ou la fresque historique, celui-ci combine les deux avec une attention marquée aux conflits intimes et aux structures sociales. Il se distingue également par son ancrage dans un Paris de 1294 vivant, conflictuel et très concret, qui donne de la densité aux enjeux politiques. Pour un lecteur curieux du Moyen-Âge, le livre offre à la fois immersion, tension narrative et réflexion sur la rédemption, la loyauté et la corruption du pouvoir. Si vous souhaitez soutenir Henri Strinati, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.